Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Pierre Corvol.
Alors, étant donné l'importance de IF dans la perception par la cellule de l'hypoxie et l'importance donc de ce mécanisme, il me semble important de voir comment IF est fait, quelles sont les différentes formes de IF. Est-ce que IF est capable par lui-même d'entraîner une angiogénèse, par lui-même d'entraîner une tumorigénèse? Parce que je ne voudrais pas vous laisser avec l'idée peut-être trop simple que hypoxie égale activation finalement de IF égale angiogénèse égale tumorigénèse. Ça, malheureusement, ça aurait été peut-être possible il y a 4-5 ans, mais le cours a lieu en 2006 et tous les articles qui paraissent dans ce domaine extrêmement compétitifs montrent que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc, il est important de savoir ce qui revient un petit peu à l'un et à l'autre, à IF1 et IF2, sachant d'ailleurs qu'il y a un IF3. Bon, IF1 alpha, c'était le premier découvert. IF2 alpha s'appelle aussi EPAS. EPAS pour endothélial, PAS parce que ce sont ces domaines conservés tout au long de l'évolution, ces domaines protéiques importants, et passe 1, bien, je ne sais pas pourquoi 1, il n'y a pas eu des passes 2 à ma connaissance. Alors, ce sont des protéines, le disais-je, très conservées, parce que d'ailleurs le mot passe vient de périodique, pair pour périodique, c'est-à-dire c'est en fait un gène qui est impliqué dans le rythme circadien, dans le contrôle de l'horloge chez la drosophile. Donc c'est vous dire que c'est un ensemble de molécules particulièrement important. La molécule est faite d'un domaine HLH pour helix loop helix qui va interagir avec une séquence spécifique de l'ADN qu'on appelle le hypoxia responsive element, HRE. Et vous avez donc ces domaines PAS qui sont importantes pour l'interaction avec les partenaires et notamment avec ARNT qui est ce facteur de transcription constitutif appelé IF1 bêta. Et d'autre part, vous avez des domaines de transactivation qui vont permettre donc la mise en jeu de l'expression transcriptionnelle de gènes. Vous avez un domaine C-terminal qu'on appelle le CTAD pour C-terminal transactivation domain et le N domaine équivalent. Et enfin, le domaine sensible à l'oxygène qui vous est maintenant familier puisque c'est l'endroit de des deux prolines qui vont être hydroxylées. IF est induit par l'hypoxie, donc IF1 alpha et IF2 alpha, ils se lient au HRE, etc. IF3 alpha, on va pratiquement rien en dire, sinon que c'est sans doute un régulateur négatif de la transcription, car ces protéines peuvent s'hétérodimériser entre elles. Et IF3 alpha n'agit pas par lui-même sur la transcription, il n'a pas notamment ce domaine C-terminal de transactivation. Alors la question est de savoir qu'est-ce qui revient à IF1 et IF2. Habituellement, quand on trouve une première molécule, on se dit que la deuxième est moins importante que la première. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est plus simple au moins à mémoriser d'une part, mais parce que si on trouve la première en premier, c'est parce que c'est sans doute la plus importante. Alors nous sommes convaincus au laboratoire, à plusieurs, que IF2 alpha est vraiment plus important, ou au moins aussi important que IF1 alpha. Mais c'était pas évident. D'abord, IF1 alpha est exprimé partout, ça c'est vrai, mais à très faible niveau dans tous les tissus. Quand on fait des coupes d'angiogénèse tumorale, on voit très difficilement l'expression de IF1 alpha. Tandis que IF2 alpha est très marqué, et d'autre part, il est très marqué dans certains organes, tels que le poumon, notamment, mais le cœur et les vaisseaux aussi, le foie, le cerveau, le système nerveux sympathique. Donc ils sont tous les deux très largement distribués, mais IF2 alpha dans certains tissus plus que d'autres. Tous les deux ont une similarité de l'ordre de 48 à 50% et tous les deux ont exactement le même domaine de dégradation par l'oxygène. Tous les deux sont régulés post-traductionnellement par les prolyl hydroxylases et l'asparaginyl hydroxylase. Ils ont une activité transcriptionnelle du même type. Ils agissent sur le même HRE, à ma connaissance en tout cas. Et c'est donc peut-être pas là qu'il faut chercher, en priorité en tout cas, les différences qui peuvent exister. IF1-alpha et IF2-alpha sont surexprimés dans les tissus du VHL du fait de l'inactivation de la protéine VHL. Ils sont en général de bons marqueurs d'agressivité tumorale, tous les deux. Plus ils sont exprimés, plus la tumeur est angiogénique et agressive. Et donc la question de savoir est-ce qu'ils sont ou non redondants ou est-ce qu'ils ont des effets spécifiques. Alors tout d'abord l'inactivation génique de IF1-alpha. Sachant que l'inactivation génique de IF1-alpha et de IF2-alpha de toute façon l'étale chez l'embryon de souris en milieu de gestation. Au cours de l'inactivation de IF1-alpha, on observe des anomalies de la formation du cœur, des vaisseaux, du tube neural. Les vaisseaux sont anormaux à la fois dans le sac vitellin et dans l'embryon lui-même. Il y a une réduction de l'expression de VEGF dans les cellules souches embryonnaires qui sont dépourvues de IF1 à alpha. Et il existe une hypoxie importante dans les tissus anormaux chez l'embryon ou au cours des cultures embryonnaires. En revanche, déjà, c'est quelque chose qui est surprenant, c'est que lorsque l'on fait on étudie les tissus embryonnaires et qu'on peut les cultiver quelque temps à partir des animaux issus d'embryons dont le gène IF1-alpha a été inactivé, on observe qu'il y a une expression anormale de VEGF. Autrement dit, dans les cellules souches, lorsqu'il n'y a pas encore de tissu, il n'y a plus de VEGF du fait de l'absence de IF1-alpha, mais à un stade un peu plus tardif, il y a vraisemblablement des phénomènes d'échappement et de redondance qui permettent à VEGF de s'exprimer. Donc IF1-alpha égale pas de VEGF, c'est sans doute une équation trop simple, en tout cas en matière de développement. En matière de tumorigénèse, est-ce que l'ablation de IF1-alpha va entraîner une diminution, voire une suppression de la tumorigénèse? Alors, effectivement, il existe une croissance tumorale ralentie lorsque, par exemple, on greffe chez la souris nude des hépatomes cellulaires dont le gène IF1-alpha a été inactivé. Toutefois, l'angiogénèse est beaucoup moins réduite que ce que l'on pourrait attendre et d'une manière générale, des tumeurs expérimentales produites avec ce type de stratégie, on pourrait dire que IF1-alpha a un rôle relativement démontré dans la tumorigine expérimentale, mais avec un effet qui est modeste sur la vascularisation tumorale. Autrement dit, IF1-alpha, mais c'est très schématique et je voudrais que vous le preniez avec des guillemets, IF1-alpha joue un rôle relativement important dans la progression tumorale, mais relativement moins important dans la progression angiogénique. Maintenant, les souris IF2-alpha -, ou EPAS 1-. Alors là, c'est encore plus compliqué. Parce que là, les phénotypes varient, ils sont moins sévères, puisque les souris peuvent survivre, mais les phénotypes varient considérablement suivant les expériences. La toute première expérience a été rapportée en 1998 par Tian et collaborateurs. Ils ont observé une létalité entre 12,5 et 16 jours. Il n'y avait pas de phénotype vasculaire, c'est un point important, alors que c'est un gène dont on peut penser qu'il est impliqué dans le développement vasculaire. Il n'y a pas de phénotype vasculaire rapporté par les auteurs. Il existait une bradycardie et une diminution du taux de catécholamine chez les embryons. Vous imaginez quand même la difficulté de mesurer cela. Il pouvait être possible de faire survivre ces embryons en injectant des catécholamines. Et ils en concluaient une mort par arrêt cardiaque. Et de fait, je vous l'ai dit à l'instant, EPAS ou IF2-alpha est exprimé dans le système nerveux sympathique, dans les cellules qui expriment les gènes responsables de la synthèse des catécholamines. Deux autres, il y en a d'autres encore, phénotypes ont été publiés, toujours secondaires à l'inactivation du IF2-alpha. Dans cette étude de Peng et collaborateurs, on observe là, cette fois-ci, un phénotype vasculaire marqué avec des capillaires qui sont anormalement lâches, des capillaires fenestrés, des cellules endothéliales qui se détachent de la membrane basale, des hémorragies chez l'embryon dépourvu d'épace, bref, des défauts de remodelage vasculaire extrêmement importants qui seraient responsables finalement de la mortalité précoce. Et puis un troisième phénotype a été décrit par l'équipe de Carmenit en 2002 dans Nature Medicine, avec cette fois-ci une possibilité survie pour quelques embryons. Et là, ils ont observé un défaut de maturation pulmonaire, très peu de temps ou au moment de la naissance, du fait d'une anomalie de la production du surfactant pulmonaire. N'oublions pas que épace est exprimé de façon très importante au niveau du poumon, qui est évidemment un organe cible pour l'hypoxie majeure. C'est quand même le premier organe qui va permettre de repérer une hypoxie systémique. Donc vous voyez à quoi correspondent ces différents phénotypes. Vraisemblablement, mais c'est toujours ce qu'on dit quand on ne sait pas, vraisemblablement à des fonds génétiques différents, des conditions épigénétiques qui peuvent être différentes. C'est troublant. En tout cas, il y a au moins un phénotype vasculaire qui est net, mais ça n'est pas constant. C'est la raison pour laquelle, au laboratoire, là, ce sont donc des résultats non publiés que je vous montre du laboratoire avec Judith Favier, Jean-Marie Gasque, on a fait quelques travaux. D'une part, pour voir, vous voyez ici, l'expression de épace dans l'endothélium des artères, mais aussi d'ailleurs, à un certain niveau, des cellules musculaires lisses vasculaires. On voit aussi la formation d'épace dans ce type d'expérience au niveau de la jonction sympathique avec les cellules musculaires lisses vasculaires. Et l'idée a été de tout d'abord regarder l'expression d'épace dans un modèle simple qui est l'embryon de poulet. Et lors du développement de l'embryon de poulet, épace est effectivement exprimée de façon très très nette au niveau des cellules endothéliales, au niveau des cellules musculaires lisses vasculaires qui entourent cette première couronne de cellules endothéliales et au niveau du système nerveux sympathique dans les cellules qui expriment la tyrosine hydroxylase. Et là, il y a un double marquage entre les grains d'expression de l'ARN messager d'EPAS ou IF2 alpha et d'autre part la coloration de la tyrosine hydroxylase. Vous voyez que donc il n'est pas complètement étonnant que dans certains phénotypes de souris dépourvues d'EPAS, il y ait des anomalies de la production de catécholamine. Alors, pour essayer de comprendre ce qui se produit lorsque l'on inactive EPAS, le modèle donc de l'embryon de poulet a été utilisé. Ce modèle est particulièrement relativement simple à étudier par rapport en tout cas aux inactivations compliquées de gènes, dans la mesure où on peut administrer différents produits dans le système vasculaire de l'embryon au cours du développement à quelques jours. Et vous voyez ici l'illustration de cette vascularisation par un colorant vert qui reste à l'intérieur du système vasculaire. On peut utiliser des rétrovirus aviaires, dont je dis tout de suite qu'ils sont complètement inoffensifs. On n'a rien à voir avec l'actualité d'aujourd'hui. Ils ne touchent pas l'homme. Ce sont des rétrovirus qui sont utilisables relativement simplement, qui sont extrêmement puissants, puisque vous voyez ici, avec un rétrovirus aviaire qui est fusionné avec la protéine fluorescente, la GFP, eh bien, tous les tissus sont très fortement marqués. Donc, il y a de cette manière-là une stratégie relativement simple qui peut être utilisée pour inhiber EPAS. Comment peut-on inhiber EPAS? Eh bien, en utilisant en quelque sorte une stratégie de dominant négatif, c'est-à-dire en utilisant la possibilité de tromper ARNT avec un faux EPAS, mais cet EPAS-là, contrairement à l'EPAS naturel qui a ses domaines de transactivation, lui ne veut pas les comporter. Et vous voyez ici que l'utilisation d'un dominant négatif en excès va s'hétérodimériser avec ARNT et empêcher IF1-alpha, IF2-alpha, ou les molécules avoisinantes, de pouvoir interagir avec l'ARNT. Il n'y a pas de domaine de transactivation. Il n'y a donc pas de transcription de gènes. Quel est le phénotype? Eh bien, voilà un autre phénotype in vivo ou in novo que l'on peut observer lorsqu'on bloque et passe. C'est très clair. Il y a une déstabilisation complète de la formation des vaisseaux. C'est un modèle d'angiogénèse particulièrement actif que celui de l'embryon de poulet au cours du développement. Et on observe à ce moment-là des hémorragies. On observe de façon extrêmement marquée ces hémorragies par rapport au rétrovirus qui code pour la protéine contrôle, le GFP. Et quand on regarde ces hémorragies, elles siègent dans différents organes, par exemple des hémorragies au niveau cardiaque, des hémorragies au niveau du foie par rapport au contrôle ou au niveau du poumon. Donc ce qu'on peut dire, c'est que par ce type d'expérience, il semble bien que effectivement IF2-alpha soit par lui-même essentiel dans la formation des vaisseaux, dans au moins la stabilisation des vaisseaux. IF2-alpha a un rôle important au niveau pulmonaire, comme je l'ai indiqué aussi, et dans cette revue faite par Semenza, qui est un des papes des facteurs de transcription inductibles par l'hypoxie, vraisemblablement, il y a une coopération entre IF2 et IF1-alpha, à savoir que les cellules endothéliales des artères pulmonaires mettent en jeu IF2-alpha, qui va induire la transcription du gène codant pour la pré-pro-endothéline. L'endothéline qui va être ainsi formée va interagir avec les cellules endothéliales des cellules vasculaires pulmonaires adjacentes, des cellules musculaires vasculaires adjacentes, et entraîner une dépolarisation membranaire. Mais IF1-alpha est vraisemblablement lui aussi impliqué dans cette dépolarisation membranaire et dans l'hypertrophie qui suit la mise en jeu de l'endothéline et de IF2-alpha. Donc vous voyez, il y a une collaboration possible entre les deux gènes. Alors, quel est le rôle de IF2-alpha en matière de tumorigénèse? Eh bien, on a un modèle pour cela qui est maintenant utilisé depuis plusieurs années, qui est celui d'une lignée cellulaire issue de cancers conventionnels du rein. Ces cancers conventionnels du rein, dans un grand nombre de cas, je l'ai dit, ont une mutation inactivatrice de VHL. Donc c'est cette lignée-là, c'est cette lignée 786O qui est donc dépourvue de VHL, et d'autre part, dans cette lignée, il n'y a pas d'expression de IF1-alpha. En revanche, IF2-alpha est exprimé. Alors cette lignée est extrêmement utile puisqu'elle va permettre de comparer les rôles respectifs de IF1-alpha, IF2-alpha, avec des additions, des inhibitions qu'on va essayer de détailler. Et cette lignée peut être greffée chez la souris et permet ainsi de suivre l'expression des gènes et surtout de voir s'il existe des tumeurs formées. Alors voilà la lignée de base. Cette lignée donc n'exprime pas VHL, c'est une mutation doublement inactivatrice. IF1-alpha n'est pas exprimé, IF2-alpha l'est, et le phénotype, c'est le cancer, ces cellules sont cancéreuses, in vitro et in vivo. Maintenant, si on réintroduit VHL, dans ces lignées qui en sont dépourvues, le VHL sauvage, wild type, à ce moment-là, IF1-alpha est toujours supprimé dans ces lignées. IF2-alpha baisse, il n'y a pas de cancer. Autrement dit, VHL est capable de complètement supprimer la cancérogenèse, et IF2-alpha suit parfaitement la réintroduction VHL. Autrement dit, on a exactement ce que l'on pouvait attendre, avec un seul facteur qui est IF2-alpha, qui est impliqué. On peut aller plus loin. On peut prendre les mêmes cellules, exactement les mêmes cellules, à qui on réintroduit donc du VHL sauvage. IF1-alpha ne bouge toujours pas. Et cette fois-ci, on va introduire en plus du IF2-alpha, mais avec une construction qui est telle que IF2-alpha est impavide, en quelque sorte, aux variations d'oxygène cellulaire. Ceci simplement mutant IF2-alpha au niveau des sites de prolyl hydroxylation. À ce moment-là, on a une protéine qui est stable, qui est insensible à la prolyl hydroxylase, et à ce moment-là, il y a un cancer qui se produit. Donc ça, c'est très intéressant, d'autant plus que les mêmes auteurs ont fait la même expérience avec IF1-alpha. Ils ont introduit IF1-alpha constitutivement stable, et il n'y a pas de cancer. Tout ceci plaide en faveur d'un rôle essentiel dans la tumorigénèse in vitro et in vivo, dans ce modèle de cellules à VHL complètement inactivées, d'un rôle primordial de IF2-alpha par rapport à IF1-alpha. Et enfin, on peut terminer, si je puis dire, la série d'expériences. Rien n'est jamais terminé en biologie. Donc je retire immédiatement le verbe terminer. Mais enfin, on peut compléter cette série d'expériences en bloquant IF2-alpha, par exemple, avec un siRNA, un RNA d'interférence dirigé contre IF2-alpha. À ce moment-là, on bloque, il n'y a plus de VHL, il n'y a plus de IF2-alpha, et à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité de pouvoir avoir des cellules cancéreuses. Il n'y a plus de prolifération in vitro et in vivo de ces cellules. Donc, IF2-alpha joue un rôle essentiel, au moins dans cette situation-là, pour expliquer la tumorigénèse. Il y a un autre modèle qui a été plus sophistiqué, mais qui essaye de se rapprocher de la maladie de von Hippel-Lindau in vivo, qui est celui de l'hémangiome caverneux du foie. Vous voyez la difficulté au passage d'utiliser des modèles génétiquement modifiés chez la souris, dans la mesure où si on inactive IF1, si on inactive IF2, ou si on inactive VHL sur les deux allèles, c'est-à-dire la recombinaison homologue classique, le knockout classique, les souris meurent en milieu de gestation, et donc on peut rien faire. Donc les gens ont été chercher des stratégies un peu plus élaborées, et notamment pour pouvoir essayer de comprendre le rôle de ARNT, IF1-bêta, et de IF-alpha, IF1, IF2, dans le développement de tumeurs vascularisées liées à l'inactivation de VHL. Au fond, on essaye d'humaniser les souris, si je puis dire, pour la maladie de von Hippel-Lindau. Alors comment peut-on le faire, puisqu'on ne peut pas inactiver les deux allèles? On peut prendre des souris où l'un seul des deux allèles est inactivé, donc des souris hétérozygotes, et si on est extrêmement patient, au bout de 15 mois, il y a des tumeurs qui apparaissent spontanément dans le foie, donc il y a à ce moment-là l'inactivation de l'autre allèle qui apparaît dans les cellules hépatiques, et à ce moment-là apparaissent des hémangiomes caverneux du foie. Seulement, il ne faut pas être un postdoc pressé pour avoir des publications, donc il y a d'autres stratégies qui ont été utilisées. L'autre stratégie, c'est d'inactiver spécifiquement VHL par l'intermédiaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, de ce qu'on appelle l'inactivation conditionnelle, où on peut à un moment donné, inactiver spécifiquement dans un tissu donné VHL par l'intermédiaire d'un promoteur hépatique qui va inactiver les allèles VHL chez la souris. Et à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait donc des souris VHL qui survivent, qui sont prédisposés à faire des tumeurs, elles n'en font pas si on ne fait pas quelque chose d'autre, et à ce moment-là, on va inactiver soit IF1-alpha, soit ARNT, soit les deux. Vous voyez un peu au passage le type de travail que ceci représente. Quel est le résultat? Chez ces souris donc, dont VHL a été inactivé par cette stratégie, la suppression de IF1-bêta entraîne l'absence complète d'apparition d'hémangiome hépatique et de polyglobulie, car ces souris présentent aussi une polyglobulie. Donc autrement dit, si le partenaire essentiel IF1-bêta est inactivé, rien ne se passe, il n'y a pas de développement de la maladie VHL chez la souris. La suppression de IF1-alpha n'a aucun effet sur la formation de tumeurs. Les tumeurs se produisent toujours. Il n'y a pas non plus de modification de la production d'érythropoïétine, c'est-à-dire que ces souris sont polyglobuliques. Et le VEGF, lui aussi, n'est pas modifié par la suppression de IF1-alpha. Néanmoins, il y a une modification du métabolisme glucidique des cellules hépatiques avec une baisse de l'expression de gènes comme la phosphoglycérokinase. Alors, l'étude sera complète le jour où, mais ce n'est pas encore réalisé, c'est peut-être quelque part à Boston ou ailleurs, le jour où on aura l'effet de IF2-alpha, c'est-à-dire qu'il faudra faire le même type de souris VHL, mais où IF2-alpha va être étudié. Mais en tout cas, déjà, ce que ça montre très clairement du fait de la suppression, quand on fait cette comparaison, c'est qu'il y a des effets non redondants de IF1-alpha et du IF2-alpha. Et donc, si on voulait schématiser au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup de précautions, en fonction de ce qui est publié, mais publié très récemment, croyez-moi, on pourrait dire que IF2-alpha est plus impliqué vraisemblablement dans certaines formes de tumeurs et d'angiogénèse tumorale que IF1-alpha. C'est ce que vous montrent les angiomes caverneux ici, qui se développent lorsque les souris sont inactivées pour VHL, c'est la maladie VHL, ou lorsqu'il existe des souris qui sont inactivées à la fois pour VHL ou pour IFA-alpha. L'inactivation de IFA-alpha n'a aucun effet, alors que l'inactivation de ARNT a un effet. Il sera intéressant de voir si, en inactivant IF2-alpha, on supprime la progression tumorale et les hémangiomes caverneux de ces souris. Donc on pourrait dire que l'inactivation génique de IF2-alpha, comme je l'ai dit en tout début, va avoir un phénotype variable suivant les études qui ont été publiées jusqu'à présent. Ça, c'est le knockout complet au cours du développement. Mais que dans les tumeurs, on va avoir une variabilité sans doute liée aux modèles expérimentaux utilisés. Un rôle tumorigénique me semble clair de IF2-alpha dans le VHL. Ce qui n'est pas parfaitement certain à l'heure actuelle, c'est le rôle que peut jouer IF2-alpha dans d'autres types de tumeurs que les tumeurs liées à la suppression de VHL, comme par exemple dans les cancers mammaires ou dans les gliomes expérimentaux. Il semble que IF2-alpha est un effet pro-apoptotique dont IF2-alpha va favoriser la destruction, l'apoptose cellules, en même temps que IF2-alpha aurait un rôle pro-angiogénique. Le rôle pro-apoptotique ferait que il y aurait une limitation dans la progression tumorale, je mets tout cela maintenant au conditionnel, et l'effet pro-angiogénique ferait qu'il y aurait néanmoins une composante angiogénique dans ces tumeurs expérimentales. Autrement dit, on aurait un phénotype en quelque sorte composite, complexe, mais il y a quelque chose à tirer de cela. D'abord, c'est que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, que deuxièmement, ça dépend du type de tumeur, ça c'est sûr. Que troisièmement, la manipulation génétique de IF1 et de IF2, comme ceci est proposé ou a été proposé pour faire de la pro-angiogénèse ou de l'anti-angiogénèse, suivant qu'on veut forcer IF1, IF2, suivant qu'on veut bloquer IF1, IF2, est quand même quelque chose qui reste pour l'instant, à mon avis, difficile, dans la mesure où, suivant le contexte, vous avez des résultats variables, difficiles à interpréter peut-être aujourd'hui, mais nous incitant à une très grande prudence, on ne peut pas dire aujourd'hui que la stratégie IF est une bonne stratégie pour faire de la pro-angiogénèse, connaissant un petit peu la littérature dans la tumorigénèse. C'est toujours les deux faces du diogénèse, hein, l'angiogénèse pro et anti. Et d'autre part, c'est pareil. On ne peut pas dire que bloquer l'angiogénèse en bloquant IF soit quelque chose qui soit non dénué, éventuellement d'effets indésirables et surtout sans doute difficilement prévisibles au jour d'aujourd'hui. Ceci pour dire donc que les relations entre oxygène et angiogénèse sont délicates à comprendre, car non seulement vous avez l'oxygène qui intervient pour l'activation de IF, mais vous avez aussi des mutations oncogéniques qui interviennent pour stimuler l'activation de IF de façon directe ou indirecte, des facteurs de croissance qui agissent aussi, des mutations de suppresseurs de tumeurs qui vont se surajouter, et l'ensemble va entraîner finalement une prolifération cellulaire, une hypoxie du micro-environnement et l'activation de IF, sans compter qu'il est possible que un déficit en fer intracellulaire, en tout cas c'est une possibilité que soulève Radcliffe, joue un rôle dans la progression tumorale. Et donc les mutations oncogéniques qui peuvent être ces oncogènes comme RAS ou SARC, ces facteurs de croissance qui peuvent être comme l'insuline ou l'insuline growth factor de type 1, le GF, et les suppresseurs de tumeurs qui peuvent se surajouter. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est finalement dans un schéma extrêmement simple de baisse de la pression partielle d'oxygène, stimulation de l'activité transcriptionnelle de HIF, angiogénèse, mais il faut pas oublier toutes les autres influences qui agissent en fin de compte sur l'état d'hydroxylation de HIF, sur les facteurs de croissance vasculaire. Il ne faut pas oublier non plus que tous ces facteurs peuvent entraîner d'autres effets qui restent encore à découvrir. Alors, je voudrais terminer enfin ce cours par la respiration cellulaire au niveau de la mitochondrie et l'implication de cette respiration cellulaire dans, lorsqu'elle est perturbée, la tumorigénèse. En effet, nous profitons ici, si je puis dire, d'une série d'affections héréditaires qui ne sont pas fréquentes, mais qui sont extrêmement intéressantes sur le plan de leur compréhension et que nous avons étudié. Je dis nous, c'est notamment l'équipe de Xavier Jeunemaître avec Anne-Paul Jiménez, Judith Favier, et d'autre part, l'équipe de Brousset HEGP avec la formation d'une cohorte qui vient appuyer les travaux que je vais vous décrire. Alors, qu'est-ce que c'est que les paragangliomes héréditaires? Ce sont des tumeurs qui sont issues des cellules dérivées de la crête neurale et qui siègent dans différents organes du corps, comme par exemple le corpuscule carotidien. Et lorsque les tumeurs ne sont pas sécrétantes, on les appelle des chémodectomes. Au niveau du glomus, au niveau de la médullaire, de la surrénale, et un certain nombre de ganglions extrasurrénaliens peuvent être affectés par ce qu'on appelle des gangliomes, des paragangliomes. Alors, ces paragangliomes sont héréditaires dans environ 30% des cas, et lorsqu'ils sont héréditaires, on les observe à un âge plus précoce que les paragangliomes sporadiques. On les observe souvent à des sites multiples. La transmission de l'affection se fait de façon autosomale dominante avec une pénétrance incomplète. Il existe souvent ce qu'on appelle une empreinte génétique maternelle, et trois gènes sont impliqués dans les paragangliomes héréditaires. Trois gènes qui sont en fait trois sous-unités d'une protéine mitochondriale qu'on appelle la succinyl déhydrogénase. Alors, nous allons voir en quoi des mutations sur l'une ou l'autre de ces sous-unités peut entraîner des tumeurs dans la mesure où il va y avoir une mauvaise perception de l'oxygène intramitochondrial cellulaire, une angiogénèse accrue et aussi, mais les deux ne sont pas obligatoirement liés de façon simple, une tumorigénèse. Ces paragangliomes sont des tumeurs extrêmement vascularisées au niveau donc du corpuscule carotidien, au niveau de la médulo surrénale. Ce sont des tumeurs qui sont liées à des pertes de fonction des gènes, enfin des sous-unités de cette succinate déshydrogénase, qui est l'une des protéines du complexe 2 de la chaîne mitochondriale respiratoire. Elles sont intéressantes dans la mesure où elles vont nous permettre de comprendre quelle est l'importance de ce complexe dans l'angiogénèse et l'importance aussi d'une mutation, de la mutation d'une de ces sous-unités, qui est l'unité, la sous-unité B de la succinyl déshydrogénase, dans le phéochromocytome, qui, vous allez le voir, est quelquefois lié à cette mutation, qui est une mutation germinale. Alors, très brièvement, c'est pas mon domaine, mais la chaîne mitochondriale respiratoire comporte un certain nombre de complexes, et le complexe numéro 2 est impliqué dans ce que nous avons tous appris autrefois en biologie, qui est le cycle tricarboxylique de Krebs, à savoir la formation d'ATP, d'énergie, par la mobilisation des électrons, et notamment par cette réaction qui est importante de la formation du fumarate à partir du succinate, par donc cette succinate déshydrogénase qui est l'un des éléments situés donc dans la mitochondrie, l'un des éléments de la chaîne mitochondriale respiratoire. Alors, cette succinate déshydrogénase est une protéine complexe formée de plusieurs sous-unités. Une première sous-unité peut être muté dans un syndrome exceptionnel et qui ne nous intéresse pas ici. Une deuxième sous-unité est la sous-unité D. Elle est responsable d'un paragangliome héréditaire et de phéochromosomes. Ceci a été découvert par clonage positionnel et non pas du tout par raisonnement, si je puis dire. C'est grâce à des grands pédigrés que l'on a découvert la liaison, puis identifié le gène responsable, qui donc se trouve, dans l'occurrence, être une mutation inactivatrice d'une des sous-unités. Une deuxième sous-unité, la sous-unité C, peut être mutée dans d'autres paragangliomes héréditaires. Et la troisième sous-unité, la sous-unité B, est aussi mutée et sa mutation entraîne de nouveau des paragangliomes héréditaires et aussi possiblement des phéochromocytomes, donc des anomalies malignes, enfin des tumeurs malignes de la médulo-surrénale. On est exactement comme dans le cas de la maladie de VHL, d'une maladie où vous avez à la fois une mutation germinale et d'autre part une mutation somatique qui va s'exprimer dans les tissus tumoraux au niveau de la médulo-surrénale lorsqu'il existe un phéochromocytome ou du corpuscule carotidien lorsqu'il existe un paragangliome cervical. Donc il faut deux mutations. Ici vous avez une mutation ponctuelle et en même temps vous avez au niveau de l'ADN tumoral une délétion qui emporte le gène SDHD. Le résultat est inactivation la sous-unité SDHD. Mais inactivation qui a été démontrée comme effectivement incapable de fabriquer correctement du fumarate parce que l'expression elle a été étudiée dans des tissus tumoraux. Un tissu tumoral étudié a permis en effet de montrer par rapport à du tissu médulaire surrénalien normal qu'il existait une abolition de l'activité du complexe 2 de la chaîne mitochondriale respiratoire, démontrant ainsi de façon tout à fait élégante que ex vivo il y avait bien une absence de la fonctionnalité la respiration mitochondriale liée à l'inactivation des deux allèles SDHD. Donc anomalie aboutissant à un dérèglement de la formation de la respiration mitochondriale. Alors nous sommes dit à ce moment-là qu'il pouvait y avoir du fait de cette hypoxie locale en quelque sorte générée par l'anomalie du fonctionnement de la chaîne mitochondriale respiratoire, il pouvait y avoir une angiogénèse comme d'ailleurs c'était clair au niveau de l'hypervascularisation tumorale mise en évidence par l'artériographie ou par l'extirpation de la tumeur. Ces tumeurs sont très difficiles à enlever chirurgicalement. Mais ce que vous voyez parfaitement bien ici, c'est l'expression de tous les gènes angiogéniques que j'ai décrits au fur et à mesure de ces cours. Ici, l'expression de IF2-alpha est pas sain, non seulement au niveau des cellules endothéliales, mais aussi par les cellules tumorales. IF1-alpha, comme je l'ai déjà dit, est exprimé à bien moindre degré. Il s'agit d'hybridation in situ. Ici, le VEGF qui est exprimé à vicinité des vaisseaux et qui va agir sur son récepteur R1, qui est bien marqué ici au niveau des cellules tumorales, mais aussi très bien au niveau des cellules endothéliales. Le VEGF R2, comme assez souvent, ne ressort pas de façon majeure, de même que le récepteur des angiopoïétines 1 et 2 qui est TIE2. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la co-expression de IF2-alpha avec la tyrosine hydroxylase ou avec un autre marqueur des cellules chromaffines, des marqueurs dérivés des cellules de la crête neurale, l'énolase spécifique des neurones, la NSE. Donc vous voyez ici que ces tumeurs expriment tout un patron de gènes responsable ou en tout cas contribuant vraisemblablement à l'angiogénèse tumorale. Alors, ce qui était intéressant compte tenu du recrutement important de ces tumeurs médulo-surrénaliennes qu'il y a dans le service dirigé par Pierre-François Plon. Ce qui était intéressant de voir, c'est si par hasard, c'est chez des phéochromocytomes que nous avions qualifiés comme sporadiques, c'est-à-dire sans histoire familiale associée, il n'y aurait pas par hasard des mutations, soit somatiques, soit germinales et somatiques, de l'un de ces gènes responsables de la respiration mitochondriale. Et ici, effectivement, en reprenant un certain nombre, et un grand nombre à vrai dire, de ces tumeurs, grâce à la banque COMET que j'ai citée tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a près de 10% de phéochromocytomes qui avaient été classés comme sporadiques, qui en fait sont des infections liées à une inactivation germinale de la sous-unité B de la succinate déshydrogénase, et que ce ne sont pas du tout des phéochromocytomes sporadiques, mais en fait des phéochromocytomes familiaux, avec une expression majoritairement parlante sur le plan de la tumeur surrénalienne, mais ces patients sont à risque, familialement parlant, de développer, pour eux ou pour leurs descendants, une localisation en dehors de la surrénale. Alors ces phéochromocytomes avaient toutes les caractéristiques de phéochromocytomes hypervascularisés, malins, mais ce n'est pas facile de les repérer néanmoins dans un certain nombre de cas. Et donc ici, dans cette étude qui est issue, sans doute des études les plus importantes qui soient, vous voyez que 10% des phéochromocytomes appelés sporadiques sont en fait des phéochromocytomes familiaux, ce qui a comme conséquence, bien entendu, de faire une surveillance tout à fait particulière. Ces patients risquent de développer des récidives, un autre site de localisation, et ces patients doivent être reconvoqués pour pouvoir avoir une étude génétique particulière et un conseil génétique de façon à pouvoir entreprendre, le cas échéant, une étude familiale et repérer les patients porteurs de la mutation et donc d'entreprendre une étude et un suivi particulier. Donc c'est étant donné le risque, voyez, considérable de malignisation de ces tumeurs en même temps qu'elles siègent à des sites, entre guillemets, aberrants. Alors, maintenant, essayons de comprendre, pour terminer, comment on peut relier l'anomalie de la respiration mitochondriale liée à l'inactivation de SDH, peu importe maintenant la sous-unité, à la tumorigénèse. On peut dire que, bon, les paragangliomes et les phéochromocytomes peuvent parfois être liés à ces mutations inactivatrices de la SDH. On peut dire aussi qu'il y a donc inactivation de cette SDH avec une perte complète et sélective de l'activité enzymatique, aboutissant à la production accrue de gènes responsables de l'angiogénèse et donc favorisant l'hypervascularisation et la progression tumorale. Maintenant, ce qui est quand même important de savoir, c'est à quelle étape ça se produit, tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien entre ce que je vous ai décrit tout à l'heure en termes de IF, hydroxylation de IF, liaison de IF avec VHL et dégradation protéosomique? Comment peut-on relier cela à l'inhibition de la succinate déshydrogénase? Eh bien, en fait, on peut se poser la question de savoir si le 2-oxoglutarate ou le succinate qui se trouve juste en amont de l'activité catalytique de la succinate déshydrogénase ne vont pas inhiber la prolyl hydroxylase, entraîner du coup une inhibition de son activité d'hydroxylation des prolines de IF et donc une translocation nucléaire accrue avec l'apparition de phéochromocytomes ou de paragangliomes au niveau des différents sites de la chaîne du système nerveux sympathique. Donc l'intérêt de ceci, c'est qu'on peut relier à ce moment-là, vraisemblablement, soit l'élévation du succinate, soit la baisse du succinate sur l'activité de la prolyl hydroxylase et modifiant ainsi son activité, avoir ainsi une vue cohérente sur le plan de l'activation anormale de IF2-alpha. Alors, une étude a été réalisée et publiée tout récemment par l'équipe de Pierre Rustin, Brière, Favier, etc., montrant que lorsque l'on mesure par chromatographie le succinate, l'alpha-cétoglutarate, en fait, on voit que c'est l'augmentation du succinate par lui-même qui est retrouvée dans les tissus tumoraux ou dans les cellules, plus exactement, dans les cellules fibroblastiques où l'on reproduit cette mutation de SDH et qui est vraisemblablement responsable par elle-même l'inhibition de l'activité de la prolyl hydroxylase. Donc le schéma est le suivant. Augmentation du succinate du fait de l'inhibition de l'activité de la succinate déshydrogénase, inhibition de la prolyl hydroxylase. À ce moment-là, IF1, qui normalement ne siège pas dans le noyau, qui est purement cytoplasmique et d'ailleurs très difficile à repérer, du fait de l'inhibition de la prolyl hydroxylase, du fait de l'augmentation du succinate, va se trouver localisé dans le noyau. Il va interagir avec ARNT et entraîner la transcription. Maintenant, si on rajoute l'oxoglutarate pour essayer de rétablir l'équilibre de façon à permettre de nouveau l'activité de la prolyl hydroxylase et donc de permettre l'hydroxylation de IF, eh bien vous voyez très bien que IF à ce moment-là est de nouveau hydroxylé et dégradé par l'adjonction du 2-oxoglutarate dans cette étude en culture cellulaire. Donc il reste maintenant à comprendre, et tout n'est pas expliqué, mais il reste maintenant à comprendre comment on peut passer d'une inactivation de la succinate déshydrogénase, d'une augmentation intracellulaire du succinate, d'une inhibition de la prolyl hydroxylase, d'une augmentation de IF2 à la tumorigénèse et l'angiogénèse, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. On commence à avoir des arguments dans la mesure où IF2-alpha est en fait un gène, en tout cas, très fortement impliqué dans la tumorigénèse, au moins dans la maladie de von Hippel-Lindau. Je terminerai en disant que cette étude n'est pas purement une étude qui a comme intérêt de disséquer un mécanisme avec beaucoup de finesse sur la sensibilité à l'oxygène des cellules et de montrer le rôle respectif de VHL, de IF, des prolyl hydroxylase, de la succinate déshydrogénase. Mais ceci permet aussi, lorsque l'on a cette expertise, de proposer la création, maintenant ce réseau est créé, d'un réseau national de paragangliaux familiaux, qui est le réseau français qu'anime Anne-Paul Jiménez, avec maintenant de nombreux collaborateurs dans nombreuses villes universitaires. Et c'est la seule manière de progresser en matière de maladies rares, c'est que de pouvoir les concentrer. On les concentre d'une part dans certains sites d'expertise médicale, chirurgicale, génétique, mais aussi grâce au net, on peut arriver maintenant à même si les gens sont éloignés, à faire bénéficier les patients de ce type d'informations. Je voudrais juste terminer avec cette diapositive pour dire une chose, c'est que l'histoire est encore plus complète lorsque l'on intègre dedans une mutation qui existe rarement et qui est responsable du cancer du rein et à vrai dire d'un syndrome associant cancer du rein et d'autres malformations affectant la peau, l'utérus et qu'on appelle la leiomyomatose, associé donc au cancer héréditaire du rein, car cette malformation, cette anomalie pardon, génétique touche une autre enzyme du même cycle tricarboxylique de Krebs, du même complexe 2 de la chaîne mitochondriale, et juste en aval de la succinate déshydrogénase, qui est la fumarate hydrase. La fumarate hydrase convertit le fumarate en malate. Or, l'inactivation de la fumarate hydrase, de nouveau, un allèle, l'autre allèle muté par mutation somatique aboutit à donc une surexpression de IF1-alpha et de IF2-alpha et des gènes cibles de IF avec de nouveau une inhibition compétitive de la prolyl hydroxylation de IF et donc le même phénotype ou un phénotype proche. Je ne voudrais pas dire le même phénotype parce que les paragangliomes peuvent avoir mais ont rarement des cancers du rein. Et à l'inverse, les patients porteurs de cette anomalie génétique, à ma connaissance, peut-être que ça existe, mais enfin, n'ont pas de paragangliomes. Mais néanmoins, on a au moins en termes de compréhension de l'ensemble de la perception de l'oxygène par la cellule et de l'importance de la respiration mitochondriale, on a un mécanisme qui est tout à fait similaire et que je résume ici. Vous voyez que le cycle tricarboxylique de Krebs, en quelque sorte, se rattache à l'activation des facteurs de transcription inductibles par l'hypoxie, IF1-alpha, IF2-alpha. La succinate déshydrogénase, quand elle est inactive, la fumarate hydrase, quand elle est inactive, entraîne une anomalie d'hydroxyproline, de la formation d'hydroxyproline sur IF, et donc une augmentation de l'angiogénèse, une formation accrue une propension à former des tumeurs. Simplement, et ce sera mon dernier mot, c'est toujours un peu plus compliqué, sans doute. Il y a d'autres possibilités, puisque là, je vous ai montré qu'une petite partie des choses. Les autres possibilités, c'est que l'augmentation du succinate et du fumarate pourrait parfaitement inhiber d'autres enzymes que la prolyl hydroxylase impliquée dans l'hydroxyprolination de IF. Que d'autre part, ces enzymes, succinate déshydrogénase et fumarate hydrase, peuvent avoir d'autres substrats que ce que je vous ai rapporté. Je ne vous ai pas parlé du rôle de la troisième isoforme des prolyl hydroxylases qui joue vraisemblablement un rôle important dans l'apoptose et donc dans la progression tumorale de façon indépendante du système IF. Ceci pour dire que ce que je vous ai montré, c'est l'état actuel des connaissances, mais que certainement l'année prochaine, c'est pas pour embrancher sur un nouveau cours, mais que l'année prochaine, il y aura encore d'autres données nouvelles à vous rapporter. Si on reste dans ce sujet-là, qui manifestement, en tout cas, vous a intéressé, je vous remercie de votre fidélité.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.